Merci pour l'accueil, pour les mots, et très heureux d'être ici dans le processus de consolider nos rapports. Vous êtes aussi les bienvenus à Barcelone. Et dans ce processus, quand on m'a demandé de faire une proposition pour discuter avec vous, alors j'ai pris le risque, j'ai pris un double risque. Le premier, c'est que c'est la première fois que je présente quelque chose qui est en rapport avec ce que je suis en train de commencer à travailler. Essayer un peu de cartographier une agenda de recherche sur la migration en Méditerranée. Et ensuite aussi, risque aussi, parce que je le fais en français, que d'habitude je le fais tout en anglais. Mais moi, je suis très heureux, parce que moi, il n'y a pas de problème pour le français, mais de temps en temps, il va y avoir, je suis sûr, des mots qui ne vont pas venir, alors vous allez m'aider. Mais ça fait longtemps que je ne parle pas le français, mais d'habitude, je donne des cours à Rabat, au Maroc et en Tunisie, donc... Et aussi à Beyrouth, à l'université de Saint-Joseph, donc ça me prend aussi là. Ce que moi j'avais pensé de partager avec vous, c'est vraiment un partage de réflexion plutôt que de quelque chose qui est fini. C'est pour ça que j'ai mis les lignes directrices comme dernier terme. Hein. Là je suis dans le croisement des trois activités de recherche. La première, c'est qu'à l'IMISCOE, dont on a parlé, Yvan a parlé, on avait organisé l'année dernière, en 2018, on avait organisé l'annuelle conférence. L'annuelle conférence, c'est 800 personnes, donc c'est à organiser une fois. Il y a un moment, vous allez devoir l'organiser.
Ah ouais.
Le sujet était sur la Méditerranée, puisque c'est vraiment le sujet dont Agrit et moi, on travaille sur la Méditerranée. Bien sûr, on ne travaille pas sur l'Amérique latine, hein, on ne travaille pas sur notre région, c'est vraiment la Méditerranée dont on travaille. Ouais, voilà, c'est ce qu'on travaille, surtout les Méditerranées. Et ensuite dans cette annual conférence qu'on avait, organisée, semi-plénaire, etc. Donc, on a fait une sélection de conférences, de panels, d'articles, etc. Et on a fait un spécial issue, un monographe spécial qui est dans le journal Comparative Migration Studies, qui est le journal par excellence de l'IMISCOE. Hein. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai fait un éditorial. C'est un peu les lignes directrices de cet éditorial dont je vais partager avec vous. Hein. Aussi, il y a un compromis dont on a parlé aussi avec Yvan, Gaston, on a parlé aussi d'un Jean Monnet Network dont on a été chanceux de l'avoir et qui a pour but aussi de penser une agenda de recherche sur la migration méditerranéenne. Et donc, dans ce cadre-là, moi, ma tâche, chacun a ses cadres de recherche. Ici, vous avez un cadre de recherche qui est lié sur les moyens de communication, etc., surtout du Sud, etc. Dans ce cadre de recherche, j'ai la responsabilité comme coordinateur, la responsabilité de faire une réflexion comment construire une agenda de recherche sur la Méditerranée qui ne soit pas très dépendante des politiques en général, des politics and policies, hein, les deux mots qui vont nous joindre. Hein. Et aussi, en même temps, je suis comme très bien a dit Yvan, je suis dans la théorie politique, sciences politiques, sociologie, politique publique, je suis toujours dans ce crossword. Mais je fais toujours une exploration normative, c'est-à-dire essayer de voir dans cette exploration normative, essayer de voir une nouvelle façon de penser la Méditerranée. C'est un peu ça. C'est peut-être pas nouveau parce que il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de gens qui ont fait les efforts de penser la Méditerranée, mais du point de vue de la migration, je pense que il y a pas beaucoup de choses à faire. Je suis dans le croisement de deux grands axes de réflexion. C'est de voir qu'à travers l'étude des politiques migratoires dans la Méditerranée on peut voir un peu une politique régionale de la Méditerranée. Donc, on est dans un processus de création aussi d'un régionalisme méditerranéen. Et donc, ça m'intéresse. Et en même temps, le second axe, c'est de voir aussi que de penser la Méditerranée du point de vue des villes au lieu de les penser du point de vue des États. Hein. Le bilan que je vais faire des États n'est pas très positif. Et donc, une proposition normative va être de réfléchir d'un côté. Hein, les politiques migratoires, c'est un moyen de penser comment se construit la Méditerranée comme une région, hein, et en même temps, pour faire cette construction, les villes est un des facteurs plus importants pour faire cette construction-là au lieu des États. Hein. Donc ça, c'est un peu la réflexion qui va nous venir. Donc c'est dans le croisement de tout ça que je vais partager un peu ce que j'ai à dire. Non les diapositives sont en anglais, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, je vais le faire en français aussi. Moi, je vais naviguer, et là, je parle comme de la Méditerranée, alors je vais naviguer avec cinq ancrages. Hein. Le premier, ça va être de vous présenter un cadre de discussion qui est la Méditerranée comme une catégorie d'analyse, hein, penser le processus de construction de la région méditerranéenne peut se faire à travers l'étude des migrations. Hein. Donc, l'idée, c'est que dites-moi comment se gère l'immigration et je vais vous dire comment est en train de se construire la région, la Méditerranée comme région. Hein. C'est un peu ça l'idée. Après, je vais aller surtout je vais faire un bilan institutionnel et aussi de l'état de la recherche sur la migration très vite. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le troisième ancrage hein, dans cette navigation que je vous propose. C'est l'ancrage de la pensée méditerranéenne, hein, Mediterranean thinking. Hein. Ça, c'est une catégorie. Une approche qui ne vient pas de moi, hein, surtout des historiens qui parlent de penser de la Méditerranée, ça c'est, disons, la tradition de Brodel, hein, etc. Mais ce que moi je vais dire ici, c'est que à part de présenter le Mediterranean thinking, donc dans l'étude des migrations et l'étude des migrations de la Méditerranée, il n'y a pas de Mediterranean thinking. Hein. Et donc, c'est ça un peu la contribution que je vais essayer de faire. Après, je vais faire que, à partir de cette approche que je vais partager avec vous de Mediterranean thinking, donc, je vais essayer d'identifier les cadres théoriques qui sont en ce moment, qui dessinent en ce moment tout ce qui est l'agenda de recherche sur la migration en Méditerranée en ce moment. Et à la fin, je vais essayer de vous présenter cette réflexion normative sur les villes, la Méditerranée, etc. Et la Méditerranée, comme moi, je vais parler de cyberspace, hein, ce n'est pas à moi non plus. Il y a des études de Méditerranée qui prennent la Méditerranée comme un cyberspace. Et je vais essayer de doter un peu de contenu de ce cyberspace, de cette idée de biopolitique hein, ou de cyberspace aussi, en employant des catégories de Foucault aussi, hein, comme on est en France, donc je suis dans Brodel, Foucault, etc. Hein, et on va essayer aussi de dessiner un peu les lignes directrices de ce cyberspace de la Méditerranée du point de vue, hein, j'insiste, de ville, du point de vue régional et du point de vue des migrations. La première chose à dire sur les déclarations internationales qu'il y a en ce moment, et là, c'est le bilan est... Il y a une phrase qui me frappe, je le partage avec vous, qui est très importante, c'est qu'il y a, une fragmentation de connaissances sur l'immigration, mais pas une accumulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur l'immigration, mais il n'y a personne qui est en train d'essayer d'accumuler toutes ces connaissances. Et Bombs and Moravka, dans un livre, il parle très bien que ça, c'est un des grands problèmes des études sur l'immigration, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui se font, mais il n'y a pas d'articulation hein, de tout ce qui s'est fait pour voir quel est le sens comment nous, on est en train de travailler l'immigration. On ne sait pas trop qui est l'agenda, si l'agenda politique domine l'agenda de recherche ou à l'envers. On est vraiment dans ce cadre-là. Et là, cette phrase est importante pour moi parce que c'est très difficile de construire une théorie si on n'a pas de processus d'accumulation de connaissances. Et donc, ma préoccupation, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accumuler une connaissance sur la migration méditerranéenne. Et c'est-à-dire d'essayer de voir tout ce qui est dispersé. Moi, je parle de conceptual limbo. Il y a beaucoup de recherches sur les réfugiés qui se font. Sur la Méditerranée, il y a beaucoup de recherches qui se font. Mais il n'y a pas un débat sur la Méditerranée comme catégorie d'analyse. Moi, j'insiste, c'est que toute la recherche qui se fait, elle se perd. Tous les findings, tout ce qu'on trouve, les contributions, elles se perdent dans un limbo conceptuel parce que personne n'est en train de le prendre et de réfléchir à partir de tout ce qui s'est fait, réfléchir sur la Méditerranée en termes brodéliens. Là, je suis en train de relire Brodel et je suis enchanté. Il faut le lire à 50 ans parce que c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il y a dedans dans Brodel. Et si on le lit du point de vue de l'immigration, Brodel ne parle pas d'immigration, il parle de mobilité, etc. Je pense qu'il y a une lecture très intéressante qui peut se faire. Et aussi, il y a des déclarations institutionnelles qui vont dans la même ligne et qui vont être les facteurs qui vont un peu me motiver à faire ce que là, je suis en train de justifier pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je propose de faire cette Mediterranean Thinking dans la Migration Studies. Il y a la déclaration de la Valletta qui est très importante en 2017. On est dans l'Union européenne, etc. Mais qui parle de... Il y a beaucoup de fragmentation de connaissances, on manque d'évidence. Et il y a beaucoup de politique qui se fait, mais il n'y a pas d'évidence. Les politiciens justifient leur politique d'immigration sans évidence. Il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Et ça, c'est important parce que les effets sur l'opinion publique est très importante, sur les politiques. Et donc, la déclaration de Valletta est en train de demander, il faut vraiment accumuler cette connaissance, il faut chercher une façon de l'accumuler, parce que si on est en train de la disperser, on perd toutes ces connaissances. Et le Global Compact aussi, il parle de ça. Le Global Compact d'immigration en décembre 2018 parle aussi de l'importance de créer des plateformes de communication, etc., et de vraiment gérer toute la connaissance qui est en train de se faire sur l'immigration et qui est en train de se perdre. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je rentre et je dis, on a vraiment besoin d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut articuler toute la connaissance qui est en train de se faire à beaucoup de niveaux, mais au niveau de recherche, surtout sur les migrations méditerranéennes. Ça, c'est un peu ça. L'idée est là. Et donc, comme catégorie d'analyse, l'immigration, la Méditerranée, maintenant, comme catégorie d'analyse, n'est pas nouvelle dans les sciences sociales. Les historiens, surtout, ce sont eux qui ont commencé à penser de la Méditerranée comme une catégorie d'analyse. Après, il y a les rapports internationaux qui sont venus et la géopolitique. La Méditerranée comme un espace, comme un chess game, comme un espace de géopolitique, d'intérêt, etc. Et l'immigration est une géopolitique de la Méditerranée, bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, il y a la Méditerranée comme catégorie d'analyse existe, mais comme catégorie d'analyse qui essaye d'articuler toute la connaissance de l'immigration, elle n'existe pas. C'est ça un peu l'effort que je suis en train de faire. Et surtout, ça, c'est vraiment un effort de créer un cadre particulier pour essayer d'accumuler toute cette connaissance qui se fait, etc. Donc là, j'essaye de justifier pourquoi ça, c'est important comme catégorie d'analyse. Et bien sûr, ici, disons, la Méditerranée, l'uniqueness, en parlant en termes de Brodel, ce qui est unique en Méditerranée, c'est le seul endroit où il y a trois continents qui se rencontrent. les trois continents, il y a trois continents qui se rencontrent dans la Méditerranée. Et ça, ça fait, et donc les trois continents, du point de vue de la migration qui se rencontrent, est importante. Il y a beaucoup de traditions derrière, et bien sûr, qui se fait aussi comme espace de civilisation, etc. Je ne vais pas vous dire le plus, mais du point de vue de Braudel, ce qui est important pour moi, c'est que il parle surtout de keywords. Quels sont les keywords, les mots-clés de la Méditerranée? C'est la diversité, c'est très important. La mobilité, la Méditerranée, c'est un endroit de mobilité. Et donc, toute la politique qui se fait en ce moment, c'est contre cette idée de mobilité. Et s'il y a une identité méditerranéenne qui est en train de se créer, où on peut envisager une identité méditerranéenne, c'est surtout à partir de la mobilité, de la diversité et de l'interaction, de networking, du réseau. C'est un grand espace de réseau, c'est ça la Méditerranée. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est un peu Braudel qui nous dit tout ça. Et je pense que ça, on peut l'appliquer, bien sûr, quand on réfléchit sur la Méditerranée du point de vue de l'immigration, etc. Et donc, parler de l'immigration comme des pionnières de l'identité méditerranéenne, ben ça, c'est un peu dans le normatif, c'est à la fin que je vais parler de tout ça. Mais c'est ça qui m'intéressait. Donc, comme catégorie d'analyse, moi, je pense qu'il y a trois façons de voir la Méditerranée. Et là, je suis dans le balcon de l'immigration. La première, c'est... Et donc, chaque catégorie d'analyse, chaque façon de comprendre la Méditerranée comme une catégorie d'analyse a une perception différente. Et là, je partage ça avec vous et je voudrais en parler plus si vous avez des questions, ont une perception différente de la mobilité, une perception différente des personnes qui sont en train de... et de la gestion de cette mobilité, qui gère la mobilité dans la Méditerranée, etc. Non, donc, il y a une perception de la Méditerranée comme catégorie qui est géographique. Et donc là, on voit celui qui bouge, le med mover. Je parle en ce terme-là de med mover. Celui qui bouge dans la Méditerranée est considéré comme une personne. Il n'y a pas de perspective autre que la personne qui bouge. Et donc cet espace géographique est importante parce que là, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais là, je vais dire seulement qu'on est en train de parler de la Méditerranée du liquide. Le liquide, c'est pas la terre, c'est le liquide. C'est vraiment là, j'étais dans l'avion, le regard sur la Méditerranée, c'est vraiment la mer. La mer, le land est vraiment l'endroit où se touche la mer et où on peut. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des études qui parlent déjà de thalassade aquatique, d'aquatic studies. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est Braudel, mais c'est tous les historiens qui suivent Braudel et qui essayent de penser la Méditerranée comme catégorie en point de vue géographique comme quelque chose de très particulier parce que c'est un territoire liquide, même s'il y a beaucoup d'oxymorons et de contradictions. Et alors, la Méditerranée, de ce point de vue-là, c'est un endroit de mobilité, où il y a beaucoup de mobilité du point de vue de personnes, etc. Mais c'est aussi un endroit, un bridge, parce que les Africains qui arrivent, donc qui se trouvent devant la Méditerranée, cette grande mer devant, et il faut qu'il la traverse. Il n'y a pas de terre, il faut qu'il la traverse. Et donc, de ce point de vue-là, le point de vue géographique, c'est pas seulement la géographie et les landes qui est autour, c'est pas les Marocains ou les Algériens qui viennent, mais aussi les Africains qui passent par l'Algérie et qui viennent aussi. Donc, c'est ces deux visions de la géographie de la Méditerranée qui m'intéressent. Après, il y a le regional building, c'est une autre catégorie, c'est une autre façon de voir. Et là, moi, c'est celui que je défends. C'est de voir la mobilité comme une ressource, comme une opportunité, une ressource. C'est dans mes travaux de la diversité. Je travaille l'interculturalisme depuis longtemps. Et donc, pour moi, la diversité, c'est une ressource. C'est une ressource. Moi, j'en parlais dans notre master. On a une réfugiée syrienne. Elle a appris l'année dernière, elle a appris le catalan, l'espagnol. Elle parle l'arabe, elle parle le français. Elle est du Liban, syrienne du Liban. Et elle parle l'anglais. Ça, c'est une ressource qu'elle a là. Là, quelles sont les politiques et les nationaux, ils ne parlent pas 5 langues. Là, c'est une ressource. Ça, c'est l'idée de ressource, de la diversité comme ressource qui est très importante pour moi. Et là, c'est l'application que je veux faire, c'est que la mobilité comme une ressource de la Méditerranée, et parce que c'est la ressource pour créer le region building, la Méditerranée comme région. Et là, c'est très important pour moi. Et le second, la géopolitique, ben là on voit très bien de la Turquie, et il y a beaucoup de pays qui utilisent la Méditerranée comme une géopolitique, et là c'est vraiment le WIPOM, je ne sais plus comment est-ce qu'on le traduit ça, comme un armement, la personne comme un projectile, comme une balle. Donc c'est la Turquie qui est en train d'utiliser, et là c'est la géopolitique, dans les différents intérêts. Donc on peut voir la mobilité comme une géopolitique de la Méditerranée, bien sûr, où il y a beaucoup d'intérêts, et où les personnes qui bougent sont des objets d'intérêt entre les États et qui se lancent, qui se balancent. Le Maroc, s'il ne réussit pas à avoir ce qu'il veut de l'Europe, il va ouvrir ses frontières et puis il va lancer les immigrants. Et c'est ça, c'est la géopolitique. Il ne faut pas se tromper, mais c'est ce qu'on voit dans la Méditerranée, c'est de la géopolitique pure et dure. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que les trois façons de voir la Méditerranée, des fois, ils sont en tension entre elles. C'est ça qui m'intéresse, de voir ces tensions qu'il y a entre elles, et surtout les deux dernières. Et moi, je pense que s'il faut qu'on fasse une agenda de la Méditerranée, de la migration méditerranéenne, il faut tenir compte de ces trois catégories. Ça, c'est un peu l'idée. Là, je suis en train dans le processus de construire une approche. C'est ce que je suis en train de faire. Rien de plus. De ce point de vue-là, le contexte de la Méditerranée est très important. Il y a beaucoup de données, et là je donne des évidences empiriques, mais il y a quatre idées qui sont importantes, ou trois, parce que la quatrième, je l'ai déjà donnée. Mais la première, je suis en train de lire de l'histoire de la Méditerranée et de la mobilité. Ça, c'est incroyable, 19e, 18e siècle, etc. Et de ce point de vue-là, les historiens, on apprend beaucoup d'eux, et qui nous disent que la région du monde la plus diasporique, c'est la Méditerranée. C'est la plus diasporique de toutes les régions du monde. Donc je suis en train d'essayer de voir la particularité, ce qui est distinctif de la Méditerranée, ce qui fait l'unité en termes de Brodel, de la Méditerranée, mais du point de vue d'appliquer ces regards brodeliens sur la migration. Après, il y a aussi le Global Peace qui nous dit que la Méditerranée, il fait un peu d'euphémisme, il ne dit pas que c'est la région la plus conflictive du monde, mais c'est la moins pacifique. Bon, il dit que c'est la moins pacifique. Et il donne des données, bien sûr. Mais on est dans cette région-là. On est ici dans la région où il y a plus de morts. Pour la Méditerranée, du point de vue l'OIM et les Nations Unies, etc. C'est là où il y a plus de morts, c'est la zone la plus meurtrière. Alors là, on est dans ces caractéristiques-là. Et donc, quand on parle de la transméditerranéenne humaine mobilité, comment cette mobilité est en train de configurer tous les rapports entre les États dans la Méditerranée. Donc, la migration comme facteur géopolitique la plus importante en ce moment, parce que toutes les données, les trois précédentes données, sont en rapport avec l'immigration. Si la mobilité, l'immigration disparaît, la Méditerranée devient une peaceful. et toutes les caractéristiques s'effondrent. Donc, c'est vraiment ça qui nous intéresse en particulier. Et donc, l'agenda de recherche doit viser ça, hein, doit vraiment viser tout ça. Après, il y a John Baird parle, c'est un autre historien, hein, parle d'un account inquiétant, hein, de la Méditerranée. Et je reprends cette phrase, parce que je pense que un bilan inquiétant de la Méditerranée qu'on peut faire en ce moment. Là, on peut vraiment se disperser beaucoup, hein, mais essayer d'articuler cette image inquiétante. Donc, si on fait juste une analyse conceptuelle, on va voir que les mots-clés, c'est la crise qui a une face Janus, hein, donc c'est une face Janus parce que il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la crise. Alors, il y a déjà des gens qui commencent à avoir un second niveau de réflexion, c'est-à-dire en faisant tant de recherches sur la crise des réfugiés et tout ça, on est en train de légitimer toutes ces politiques de sécurité. Donc la recherche est en train de donner des arguments aux politiciens. Et donc il n'y a pas de réflexion, il y a tellement de gens qui travaillent les réfugiés. Et donc c'est cette Janus face qui m'intéresse. Hein. Comment la recherche est en train de retréalimenter toutes ces narratives de crise qui convient aux États. Hein. Parce que la crise convient aux États, parce que devant une crise, ben, les droits humains, ben, on les respecte. On est dans une crise. Hein. Donc les droits humains, si on ne les respecte pas, on peut rien y faire. Hein. On est dans une crise. Hein. Donc c'est ça les États, hein, c'est cet argumentaire qui est là. Aussi, c'est l'ingouvernabilité, l'impossibilité de la gestion, l'imprédictabilité, l'incertitude. Hein, l'idée d'incertitude est très importante. On est dans une politique d'incertitude des flux migratoires, de complexité. Hein, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de facteurs, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'alliances, hein, qui se font, hein, autour de la mobilité, de la Méditerranée, etc. Et donc, tout ça, même la xénophobie, le processus de renationalisation en Europe ne peut pas se comprendre sans la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui est là. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, et aussi, il y a tous les by-products, toutes les conséquences de la mobilité, ce que j'appelle de la transmobilité, qui est la diversité, la diaspora, le transnationalisme dans la Méditerranée, mais aussi l'interculturalisme, le cosmopolitanisme, hein, en sachant que le cosmopolitanisme, c'est une défense des valeurs universelles qui ne sont pas rattachées et justifiées à partir d'une idée de nationalité. C'est ça le cosmopolitanisme. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le scénario est vraiment un scénario de blocage, de restriction de la mobilité. Et donc, bon, on a vraiment du mal à créer une région, la Méditerranée comme région et comme une identité, si toutes les politiques sont de blocage de la mobilité. Hein, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Non, et bien sûr, cette image inquiétante, c'est aussi la conditionnalité qui existe. Je ne sais pas si vous connaissez cette politique de conditionnalité, mais c'est très important. C'est la réelle politique qui arrive dans la gestion de l'immigration. La conditionnalité, c'est le mort en mort, c'est le plus pour plus logique. Hein, c'est la logique du plus pour plus. C'est-à-dire, moi, tu arrêtes, tu contrôles tes frontières. Moi, Union européenne, je parle au Maroc. Tu contrôles tes frontières, s'il te plaît, et on va t'ouvrir le marché européen. C'est ça, la conditionnalité. À condition que tu fasses ce que je te demande, tu vas avoir des bénéfices. Ça, c'est la politique de la conditionnalité qui est en train de, en ce moment, qui est la plus importante, ben ça c'est la Turquie, hein. Tu prends les réfugiés, on déplace les réfugiés de la Grèce en Turquie, c'est-à-dire hors Europe, hein, hors Europe, parce que avant c'était en Europe, maintenant c'est dehors l'Europe, et à condition que on va te donner des bénéfices au niveau visa turc. Ça, c'est la conditionnalité. Donc, ça fait partie de la réelle politique. C'est ce qui, en ce moment, commande la politique d'immigration en Europe. C'est ça qui est en train de se faire. C'est pour ça que dans la majorité, tout est sous contrôle de la conditionnalité, sauf deux pays, la Syrie et la Libye. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'État. En Libye, il n'y a pas d'État en ce moment, il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a personne, ce sont des tribus, il n'y a rien. Et en Syrie, ben on sait. Donc c'est les deux endroits où les immigrants arrivent. Mais en ce moment, par le Maroc, par la Tunisie, tout ça, tout est sous contrôle. Hein. Tout est sous contrôle parce qu'il y a la conditionnalité. Donc cette conditionnalité pose beaucoup de questions. Hein. Je vais en poser beaucoup, mais ça existe. Hein. Et donc c'est une politique d'immobilité qui est en train de se faire. C'est-à-dire, on va, au lieu de bloquer l'immobilité, on va essayer d'empêcher que les gens bougent. Hein. Ça, c'est la politique qui est en train... C'est pour ça que moi, je parle de la politique d'immobilité. Hein, d'essayer de que les migrants n'aillent pas sur ce territoire liquide. Hein. Ça, c'est un peu l'idée. Hein. Donc, c'est aussi... Cette vision inquiétante, c'est aussi l'eurocentrisme. L'eurocentrisme, c'est une réflexion très, très, très profonde. C'est très profond. Hein. L'eurocentrisme... Ça va devenir quelque chose de très important pour moi. Mais l'eurocentrisme, c'est que toutes les catégories d'immigration, les catégories d'interprétation de l'immigration sont le monopole d'Europe. C'est l'Europe qui nous dit. Hein. Là, je viens de lire un article sur le Grand Sud. Le Grand Sud, c'est une autre catégorie qui vient de s'inventer pour dire le Grand Sud, la pauvreté du Grand Sud et la richesse du Grand Nord, etc. Donc, toutes ces catégories d'analyse, et ça, c'est important pour faire la recherche, parce que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup de recherches qui sont en train de se faire sont en train de se faire avec des catégories d'analyse qui sont le monopole d'un eurocentrisme. Et là, on a vraiment un grand problème, là. Hein. Ça, c'est un peu ça, l'idée que je suis en train de... Et pour moi, l'eurocentrisme, s'il faut le définir d'une façon, ben, je prends l'Empire romain, quand il a gagné les Carthaginiens, hein, et qui ont dit « Cette mer est nôtre, Mare Nostrum hein, ». D'accord ? C'est à nous, c'est pas à vous. Hein. Et le Mare Nostrum, ben, ça, c'est l'Europe qui est en train... C'est la politique européenne en ce moment. Hein. Elle fait du Mare Nostrum. C'est l'Empire romain. Hein. Hein, c'est notre. Hein. Hein, ça, c'est quand l'Empire romain défait tous les Carthaginois et déclare Mare Nostrum. Hein. Vous savez que la mer Méditerranée a beaucoup de noms. Chaque civilisation lui a donné des noms différents. Et c'est celle-là qu'on a hérité. Donc ça c'est l'eurocentrisme. Hein. C'est ce que je parle d'eurocentrisme. Et aussi, les façons de fixer les catégorisations binaires, ça me dérange beaucoup. Hein. De penser la Méditerranée, l'immigration, avec ces fixations binaires entre vous, le Sud et le Nord. Le Sud et le Nord, comme catégorie d'analyse, ça vient de l'Empire britannique. Le Sud et le Nord comme catégorie d'analyse. Alors quand on dit il faut le rapport entre Sud et Nord, toute cette géographie, c'est une façon d'essentialiser quelque chose qui est politiquement construit. Hein. Et le Sud et le Nord, ça devient comme ça aussi. Hein. Donc c'est très intéressant de voir comment toutes les binaires qui sont autour de la Méditerranée, la migration, vraiment très intéressant. Et là, moi, je suis en train de dire, cette domination de la recherche par ces binaires, là, il faut les discuter. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je veux discuter toutes ces choses-là. Hein. Après, bien sûr, c'est là où je rentre avec la pensée méditerranéenne. Hein. La pensée méditerranéenne comme une approche, je ne suis qu'en train d'essayer de faire les contours d'une approche, rien d'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'une approche, pour ceux qui font doctorat et master, une approche, c'est toujours très important. Quelle est votre approche? Ben là, ça prend des mois, hein, ça prend même des... Hein, ça beaucoup, parce que là, il faut vraiment viser. Donc moi, je prends cette Méditerranée thinking, je le prends de Cook, et qui a été démontré par Chambers, des personnes des historiens qui ont pensé la Méditerranée de cette façon-là, et je prends ce Met thinking. Hein, et donc... disons, mon but, c'est d'incorporer ce made thinking sur migration studies. Hein. C'est un peu ça l'idée hein, que j'ai derrière. Et donc, et là, de placer la Méditerranée dans la centralité de la Méditerranée dans la migration studies hein, et dans l'agenda. Ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire tout ce qui fait en recherche en ce moment sur la Méditerranée doit s'ancrer dans ce Mediterranean thinking. Hein. C'est un peu l'idée. Et donc, bien sûr, ici, c'est un espace de fixité. Là, je reprends encore des mots qui sont de Brodel, mais que Cook et Chambert, ce sont des Brodeliens aussi, qui le plongent aussi, mais d'essayer de voir la fixité de la place et la contingencie, hein, la contingencie et l'imprédictabilité, l'incertitude des événements, hein, de cette histoire événementielle hein, de Brodel. Et donc, de ce point de vue-là, on peut très bien travailler la fluidité des rapports qu'il y a dans la Méditerranée en ce moment, etc. Non et, aussi, et, j'aime, je reprends aussi une catégorie de Cook. C'est peut-être un oxymoron, hein, c'est-à-dire quelque chose qui apparemment est contradictoire, mais qui fait, qui a un sens par soi-même, et donc d'homogénéiser la diversité. Hein, c'est un peu ça l'idée de Mediterranean thinking. Hein. Et donc de ce point de vue-là, donc moi ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est pour moi le met thinking, c'est comme l'histoire de longue durée de Brodel. Hein, mais pour moi toute la recherche qui est en train de se faire Elle est en train de louper ça. Elle est très événementielle. Elle est en train de perdre cette grande angulaire de longue durée hein, qui est derrière et tout ça. Donc c'est et pour moi l'effort que je suis en train de faire de Mediterranean thinking sur migration studies, c'est d'incorporer cette longue durée qui est très importante. C'est essayer d'introduire hein, les études de la migration dans la Méditerranée, mais dans la grande durée, pas dans les événements. Là c'est la tyrannie des événements qui est en train de... Il y a tellement d'études hein, qui sont en train de se faire, la tyrannie des événements, etc. Non et donc là, c'est vraiment une réclamation épistémologique qui est derrière, qui m'intéresse aussi. L'épistémologie, pour moi, c'est très important. Disons, le définissant très rapidement, l'épistémologie, c'est une réflexion de la façon dont on gère et on produit de la connaissance. Hein hein, et c'est une pensée de second degré. Hein, c'est comment se produit. Moi, je suis en train de faire une épistémologie hein, d'une certaine façon de la Méditerranée de ce point de vue-là. Et donc, là, pour moi, si on introduit la longue durée, on est obligé de prendre post-colonial studies et de situer directement la Méditerranée, tout ce qui se passe en Méditerranée, de ce point de vue-là, hein, de la post-colonial studies. Et donc, pour moi, il y a un lien très fort entre la pensée méditerranéenne telle que je suis en train de la configurer avec le post-colonial thinking. Hein. Et c'est très clair. Et c'est ça qui manque dans le Mediterranean Migration Agenda en ce moment. Hein. De vraiment voir, si on le situe dans la longue durée, il faut qu'on reprenne ce cordon ombilical historique, hein, qui est que la Méditerranée et tout ce qui se passe en ce moment, c'est une conséquence néocoloniale derrière. Toute la diaspora a à voir avec ça. Toute l'émigration du Sud, entre parenthèses, le Sud, après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi ça un rapport avec la colonie. Même la xénophobie qu'on est en train de voir en ce moment est très directement lié au post-colonial. Hein. Pour moi, c'est très clair en Espagne, par exemple. L'Espagne est le pays avec la Belgique et la France qui a le plus de Marocains. Et l'histoire de l'Espagne et l'identité espagnole, elle s'est construite contre les Marocains, contre les Maures. Et donc, toute la xénophobie et tous les problèmes de racisme, vous qui travaillez le racisme, ont directement à voir avec cette construction hein, coloniale hein, du Maure, etc., et du Marocain en Espagne, parce que l'identité espagnole s'est créée contre les Maures. Contre le Ramon, c'est pas le jamon et le croissant, ben, ça a à voir avec l'islam, hein, et surtout le jamon. Hein, ça a été une politique du khalouf, hein, contre les morts. Hein, ça, c'est toute l'histoire de l'Espagne. Si on la revise, on va très bien comprendre que ça va. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est d'incorporer ça. Hein, Donc là, bien sûr, cette épistémologie postcoloniale, pour moi, est très importante. Non seulement, moi, je dirais qu'il y a trois choses qui sont importantes ici. Il y en a plus, mais il faut que je gère le temps aussi, ce que je veux dire. Mais la première qui est importante, si on incorpore cette langue dorée qui est le postcolonial, hein, c'est surtout... L'idée que si il faut qu'on reprenne disons la catégorie de Méditerranée, mais d'essayer de voir tout ce qui a été rejeté, hein, par cet eurocentrisme et la façon dont gérer toute cette narrative sécuritaire derrière qu'il y a, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont Schomburg est un de ceux qui sont en train de faire cet effort, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de voir tout ce qui a été jeté à la poubelle, hein, par notre histoire, et surtout par notre histoire de Mare Nostrum, hein, de cette mer qui est nôtre. Et donc, comme cette mer est nôtre, on va jeter, et ça ne nous intéresse pas, tout ce que pensent les autres. Et là, ça veut dire que si on veut faire vraiment de la Méditerranée comme catégorie de l'analyse, il va falloir vraiment essayer de voir quelles sont les autres voies. L'idée de multiple voices, hein, de voies multiples, que la Méditerranée, ce n'est pas seulement l'Europe. L'Europe, l'européisation de la Méditerranée, c'est une néocolonisation, hein, de cette façon. Et donc, de ce point de vue-là, le postcolonial thinking et le met thinking nous obligent à voir quelles sont les autres voies. Hein. Et donc, ça, c'est important. C'est ce que vous êtes en train de faire, au moins de la façon dont moi j'interprète ce que vous êtes en train de faire, d'essayer de voir les moyens de communication des autres, hein, d'un point de vue des autres angles, pour essayer de comprendre comment les autres voient le regard des autres, hein, du point de vue de la Méditerranée, etc., les représentations des autres, etc. Ça, c'est important. Et le postcolonial thinking, c'est aussi une façon de se lier, de créer ce cordon ombilical avec le passé qui a été complètement coupé, hein, avec des intentions bien sûr très fortes par l'Europe. Hein. Donc, c'est aussi l'idée de Gramsci, l'application de Gramsci qui est très forte de l'hégémonie, hein, l'idée d'hégémonie, de cadre de référence. Hein. Gramsci parle d'hégémonie comme cadre de référence qui est en train de produire des sens et qui est en train de produire les sens, les catégories. Hein. Toutes les catégories d'analyse qu'on a en ce moment sont des catégories d'analyse qui font partie de cette hégémonie en termes de Gramsci. Et donc là, ce rapport entre hégémonie et subalterne est toujours derrière. Hein. Donc toutes ces conditionnalités, réviser toutes les politiques qu'ils sont en train de faire, les politiques de voisinage, qui sont les dernières politiques de l'Union européenne, sont des politiques il faut l'interpréter, et c'est ça qui est important. Le met thinking et le postcolonial thinking, c'est une façon la troisième chose que je voulais dire, c'est une façon de réinterpréter, hein, et de relire toutes les politiques qui sont en train de se faire en ce moment du point de vue de l'Union européenne, etc., et qui nous échappent. Et la critique que je fais, c'est que toute la recherche qui est en train de se faire en ce moment, elle n'est pas dans cette longue durée. Hein. Elle est vraiment dans l'événementiel, et c'est ça que moi je critique sur tout ça. Hein. Donc ça devient, l'épistémologie devient une dénonciation. Il y a des auteurs qui parlent même, moi j'aime bien ce mot parce qu'il nous dit beaucoup de choses, d'une epistemological violence. Hein. C'est une violence, c'est une agression épistémologique, hein, qui est derrière Europe et tout ça. Donc De ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses. Hein, qu'on peut, on parle de la décolonisation de la représentation, d'essayer de voir la Méditerranée du point de vue et d'essayer d'aller plus loin que la logique binaire hein, qui est dans le Migration Studies est très forte. Bon, ben, le racisme, c'est une logique binaire. Hein, et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est important à tenir compte de tout ça. Même, moi, je dirais, que là, je vais en parler aussi, que même toutes les valeurs universelles hein, qui sont derrière aussi de la conditionnalité, parce que la conditionnalité, c'est aussi de demander au Maroc, on va te donner du marché européen, mais tu démocratises un peu la société, tu introduis... des choses, tu fais des réformes, etc. Donc, j'ai une étudiante qui est en train de faire une thèse de doctorat qui a fait un article sur ce spécial issue, sur le processus de la politique de démocratisation de l'Europe à travers l'externalisation des politiques, la conditionnalité. Hein. Et c'est-à-dire que l'Europe, soi-disant, le discours de l'Europe, c'est que la conditionnalité est bonne. Parce que la conditionnalité, ce n'est pas seulement donner du marché, c'est aussi obliger le Maroc à se démocratiser, à introduire. Alors, de ce point de vue-là, il y a tout un éventail de valeurs universelles qui sont très difficiles de critiquer, parce qu'on ne va pas critiquer que l'Europe est en train de demander au Maroc, à la Tunisie et aux autres États du Sud de se démocratiser, valeur universelle, de faire attention au genre, hein, donc c'est droits humains, c'est-à-dire toutes ces valeurs universelles qui sont derrière la conditionnalité, c'est important. Mais il y a déjà des études qui sont en train de dire, et là, disons que pour la Catalogne, on peut même avoir que la façon dont on comprend la démocratie est très différente, même en Europe en ce moment. Hein. La façon dont on comprend la démocratie est très différente. Donc, de ce point de vue-là, il y a déjà des études qui sont en train de dire que même ces valeurs universelles ont des interprétations différentes selon le contexte, etc., et selon la culture, etc. Et donc, si l'Europe ne fait pas attention à ça, il peut revertir encore plus d'immigration, etc. Donc, c'est un peu ça aussi qui est derrière cette épistémologie hein, que je parlais. Et aussi, l'idée de cyberspace, c'est là que ça vient de Cook, etc., mais l'idée de met thinking, de longue durée, donc c'est l'idée aussi de voir la Méditerranée comme un espace virtuel. Hein, et donc, toutes les mobilités, ce sont les espaces de communication. Les villes, c'est un ordinateur. Et donc, on est en rapport avec d'autres villes à travers l'immigration. Et donc, si on coupe cette communication qui est la mobilité. Et donc, il y a des problèmes de cyberspace qui se passent. Et donc, il y a déjà des études qui commencent hein, à concevoir la Méditerranée comme un cyberspace. Hein, et donc, une façon d'interpréter la Méditerranée et l'immigration. Et donc, de voir les immigrants comme des limites à la communication, au lieu que ce soit des ressources, etc., sont aussi dans ce discours-là. Et je pense que là, le MetNet Thinking hein, fait partie aussi de cette approche hein, qui est importante. Hein. Là, pour l'instant, je n'ai seulement que présenté cette approche. Hein. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand on est en train d'appliquer cette approche sur l'agenda de tous ceux qui sont en train de se faire en ce moment sur Mediterranean Migration Studies, là, cette approche va nous permettre d'identifier, d'avoir un regard critique et d'identifier. Je l'ai déjà, hein, parce que tous les exemples que je suis en train de vous donner, c'est un regard critique, mais va nous permettre aussi d'identifier comment les choses sont en train de se faire. Comment la connaissance est en train de se produire en ce moment, la connaissance autour de la Méditerranée et de l'immigration. Et le Mediterranean Thinking va nous donner aussi une façon d'avoir un autre regard sur, et donc de dynamiser un peu tout cet agenda de recherche qui est en train de se faire sur d'autres angles. Hein, c'est un peu ça l'idée hein, qui est derrière. Et donc, de ce point de vue-là, Bon, moi, je me demande, comme théoricien politique et philosophe en même temps, je me demande ben, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un agenda de recherche. Je vais passer ça, mais c'est déjà une question qui est importante parce que dès qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un agenda de recherche sur la Méditerranée, moi, je pense que, disons, ça va nous permettre d'avoir un regard critique. Hein, comment construire un regard critique sur la recherche qui se fait en ce moment si on n'a pas, disons, une cartographie, un cadre de référence précédent. Mais je vais aller un peu plus vite pour ça. Mais je pense que les dates sont très importantes. Et moi, je pense que les dates les plus importantes sur la Méditerranée qu'il faut retenir, bien sûr, il y en a d'autres. Mais là, je suis dans la longue durée. Hein, et je prends sérieusement cette longue durée. Donc, on est vraiment dans le Barcelona Process. Le Barcelona Process de 1995, c'est la première fois où l'Europe a une politique régionale et construit une politique régionale méditerranéenne, hein, sur trois angles, la culture, l'économie et la politique, etc. Donc, il y a déjà des études qui voient cette européisation comme le Mare Nostrum, du point de vue, parce que vraiment l'eurocentrisme en même temps est très fort à partir de 1995. Après, il y a une autre, c'est l'Union de la Méditerranée. Vous connaissez mieux que moi, parce que c'est une initiative de Sarkozy, mais on a l'Union de la Méditerranée, la centrale est à Barcelone, je les connais très bien. Et là, l'Union Méditerranée, c'est une façon un peu d'avoir une logique de ressources. Ce qui m'intéresse de l'Union Méditerranée, c'est la logique de ressources. C'est vrai que la ressource qu'il a, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est le gaz, c'est tout ce qui est les ressources qui sont très importantes dans la Méditerranée. Maintenant, ils sont en train de se demander sur le changement climatique, parce que la Méditerranée, c'est l'endroit le plus chaud du monde, c'est-à-dire les effets du changement climatique en Méditerranée sont un pourcentage plus élevé que dans les autres endroits du monde. Et donc ça, c'est un grand facteur, un nouveau facteur de mobilité et d'immigration qui est très important. Et donc l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée commence à être intéressé à ça et nous a demandé à nous, dans Euromedmitch, de voir comment est-ce qu'on peut introduire cet agenda sur la, comme facteur, comme driver, comme facteur de mobilité. Donc, ce sont les thèses qu'il faut faire en ce moment. Hein. Ce sont les thèses, parce que c'est la grande demande en ce moment. Hein. Et aussi, disons, le printemps arabe est très important comme date. Et aussi, ce qui est important, c'est en 2004, tout le processus où l'Europe s'est élargie. Hein, et c'est là où a commencé, disons, les politiques de voisinage ne se comprennent pas. S'ils sont liés, c'est une conséquence de l'élargissement. Parce que comme l'Europe s'est élargie, l'Europe se demande où finit l'Europe. Et donc, on va faire une politique autour de l'Europe, régionale autour de l'Europe, c'est la politique de voisinage, et la Méditerranée, c'est celle qui m'intéresse, pour essayer de faire une politique régionale de voisinage pour faire les frontières de l'Europe en dehors des frontières territoriales. C'est ça que la Méditerranée devient une frontière. Hein. Et le Maroc, c'est la frontière. Le Maroc est la frontière de l'Europe en ce moment. Hein. Ce n'est plus l'Espagne. Hein. Et donc ça, c'est très important. Et le Maroc commence à jouer, joue dans la géopolitique, joue à faire ce rôle de gendarme. Ça l'intéresse parce qu'il y a beaucoup de contrats qui arrivent, marchés, qui arrivent de l'Europe. Et ça, ça fait des affaires. Et puis, ils sont d'accord à faire, moi, je fais ton gardien, j'arrête les frontières. Il n'y aura plus de frontières. J'arrête les Canaries, j'arrête le Ceuta Melilla, mais on veut des contrats. Ça, c'est l'Europe, c'est la conditionnalité. Et ben, c'est ça qui est en train de. Donc, ça, ce sont les dates qui sont importantes, je pense, pour l'agenda. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'identifier. Je vais aller très vite, je ne sais pas le temps, comment je gère en ce moment. Mais, c'est du point de vue de l'approche que je viens de dessiner, je vais essayer d'identifier les cadres théoriques qui sont en ce moment dans l'agenda politique des migrations, hein, hein, de la recherche hein, de l'immigration. Et je vais essayer d'inférer de tout ça les deux principales assumptions présupposées hein, qui, pour moi, sont dans tous ces cadres-là et que ce sont ces présupposés qu'il va falloir interpeller pour renouveler ce matériel psychique qui est le dernier ancrage que je vais faire. Vous comprenez un peu ma logique. Hein donc là, je vais repasser tout ce théorique. Je ne sais pas combien de temps j'ai. 10 minutes. Bon. Un quart d'heure. Merci, merci. Bon, alors, je change de coordinateur. Donc, bon, donc le premier, c'est, bon, je vais seulement les énumérer. Et si vous me posez des questions, je vais. Mais là, ma logique est très simple. Ma logique, c'est d'identifier des cadres théoriques, les tensions qui se posent sur la recherche en ce moment sur la Méditerranée, et de voir comment, à travers le met thinking, c'est la dernière partie, on peut reviser tout ça. C'est ça un peu l'idée. Hein donc là, le nexus entre le political, le policy, là je ne sais plus qu'en français c'est comme en espagnol, on n'a pas cette différence, mais pour moi c'est, le political c'est l'idéologie, hein, et le policy c'est plus technique, c'est plus administratif, etc. Politique publique qui est derrière, etc. Le social et la recherche, donc le nexus qu'il y a, hein, c'est-à-dire il faut que nous chercheurs, il faut que nous nous demandions si la recherche, à qui bénéficie cette recherche ? D'accord ? Quels sont les bénéfices de cette recherche ? Hein ? Et si, à travers nos recherches, on est en train de retremonter une narrative ou non ? Hein ? De tant faire de la crise, ça, il y a déjà des gens qui sont en train de se poser cette question. Ben, pourquoi travailler autant la crise ? Parce que les États, là, ils sont super contents. Hein ? Les États sont en train de retroalimenter ça, hein, parce qu'ils nous donnent de l'argent pour faire la recherche si on fait ça. Hein. Donc, moi, ce sont des réflexions qui sont très importantes à faire, parce que de ce point de vue-là, qui gère moi, c'est ce que, pour le dire très rapidement, une recherche agenda ne peut pas être une reproduction acritique, hein, non critique, des titulaires des journaux. Il faut aller plus loin de ça. Hein. Donc, mais en ce moment, moi, en faisant le bilan de tout ce qui se fait de la recherche, ben, ce sont les titulaires qu'on fait la recherche. Donc, moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une agenda de journaux, une agenda politique, une agenda de recherche, et pas nécessairement, il faut qu'elles soient liées. Et je pense que les chercheurs, en ce moment, n'ont pas ce regard critique important qu'il faut qu'ils aient, hein, de proposer des choses beaucoup plus. Hein, parce que bon, donc, de ce point de vue-là, moi, je parle ici de fake news, hein, etc., parce que c'est vrai que toute la politique... Moi, là, on est dans je ne sais plus quel est le numéro d'élection en Espagne qu'on est, mais on est encore en élection. On est en élection permanente en Espagne. Comme ils ne sont pas habitués à travailler dans le consensus, ils sont habitués au bipolaire, donc il y a toujours des élections. Et ce qui est nouveau dans ces élections, c'est que quand on, dans le journaux, je ne sais pas en France si ça passe, mais moi cela ne m'a pas passé inaperçu, il y a une section des fake news. C'est tous les politiciens, tous les arguments que donnent les politiciens qui ne sont pas vrais. Il y a une section sur ça. Et on commence à faire des statistiques. Quels sont les partis politiques qui gèrent de plus en plus des fake news? Et donc, moi, je trouve ça surprenant que ça soit déjà... ça se gère, tout ça. Hein. C'est en train de se gérer, tout ça. Et donc, sur l'immigration, là, Il y a beaucoup de choses qui se font. Le médecine qui nous oblige à introduire cet agenda. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. D'essayer de voir comment les politiciens sont en train de nous mentir, beaucoup de fois, hein, pour ces politiques qu'ils sont en train de faire, pour justifier les politiques sur la Méditerranée, etc. etc. C'est ça un peu la Valletta et tout ça, qu'ils demandent des évidences, evidence-based policy, hein, des politiques qui sont gérées. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de recherches dans le médecine qui nous invite à faire ça. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Une autre, le second, c'est le gap qu'il y a entre les narratifs de contrôle et les dynamiques. Hein. Les politiques et les dynamiques, il y a un divorce énorme. Il y a déjà de la recherche qui se fait sur ce divorce-là. C'est-à-dire que les narratifs de contrôle nécessairement n'arrêtent pas l'immigration. De plus en plus que les politiciens parlent de « il faut contrôler, il faut contrôler, contrôler », les immigrants arrivent également. Ça n'arrête pas. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il y a même Farg hein, et d'autres, mais là, j'ai pris la phrase de phrase qui nous dit que stopper l'immigration et arrêter les morts ne viennent pas ensemble. C'est-à-dire que beaucoup de fois, si on stoppe l'immigration, il y a plus de morts. Hein, et en ce moment, c'est ça qu'il faut regarder, que le numéro de morts qui est en ce moment sur la Méditerranée est beaucoup plus élevé qu'avant, même si les politiques, vont dans l'autre sens. Donc, de ce point de vue-là, le rapport entre les narratives et les dynamiques sont très importants. Donc, de ce point de vue-là, le med thinking, qu'est-ce qu'il peut nous apporter hein? Essayer de voir hein, tous les liens sur lesquels se justifient les politiques qui ne sont pas vraies, hein, comme l'immigration zéro, toutes ces choses-là. Hein. Et donc là, il faut faire de la recherche sur ça. Hein. Il ne faut pas seulement le dire, mais il faut faire de la recherche sur ça. Hein. C'est ça un peu le médecine de ce point de vue-là. Le lien entre sécurité et stabilité, là, c'est beaucoup de narratifs de l'Union européenne en ce moment, c'est il faut... la Méditerranée, c'est un endroit d'instabilité, et c'est à cause de l'instabilité qu'il y a beaucoup d'immigration. Hein. Ça, c'est un peu le rapport. Et donc, il faut la sécurité et accompagner la sécurité avec la stabilité, etc. Donc, ça, c'est tout. Il y a beaucoup d'analyses qui se font sur ce cadre de référence. Et là, évidemment, de ce point de vue-là, l'idée de stabilité devient quelque chose de très important parce que bon, ben, on parle de stabilité politique, mais là il va y avoir sur la série de working papers qu'on va ouvrir dans le projet dont Yvan vous a commenté. Il y a un professeur d'Égypte qui a travaillé l'instabilité et donc la stabilité n'arrête pas l'immigration. C'est-à-dire que la politique que fait l'Europe de stabilité, parce qu'ils pensent que la stabilité va arrêter l'immigration, ça ne va pas. Ça va encore ouvrir encore beaucoup plus l'immigration, hein, à la stabilité, parce que les gens peut-être ne marchent pas autant parce que précisément il y a l'instabilité dans ces pays-là. Hein. Et donc de ce point de vue-là, ce lien-là, est aussi objet d'analyse et doit être objet d'analyse de ce point de vue-là. L'idée de la crise, j'en ai déjà parlé, de Fortress Europe, j'en ai déjà parlé, et l'idée aussi que la recherche sur la crise retroalimente et justifie beaucoup de politiques de sécurité et de crise qui est derrière. Il y a déjà beaucoup de chercheurs qui commencent à se rendre compte, hein, de se rendre compte de bon, ben, ce que je suis en train de faire à la fin, je suis en train de justifier ce que je suis en train de critiquer. Et donc, il y a tout un réseau qui se fait. De ce point de vue-là, je pense que c'est très important d'essayer de voir tous les paradoxes, les contradictions qui est derrière et surtout les asymétries et les imbalances dont je parle ici. Et ça, le med thinking peut nous aider sur ça. Et aussi, multi-acteurs. Là, on est en train de voir que le Méditerranée est un espace, Méditerranée en migration, Medmich, hein, je ne sais pas, et c'est un espace de multi-acteurs, c'est un système multi-acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la Méditerranée. Hein. En ce moment, il y a des acteurs qui sont en tension. Hein. L'Italie contre les bateaux qui essayent de ça, ce sont deux acteurs qui sont en grande tension. Comment les États sont en train de faire des protocoles pour essayer d'arrêter de vider l'espace méditerranéen d'un acteur. Donc, de ce point de vue-là, les incohérences et le manque de coordination entre acteurs devient un sujet de recherche que le MedThink nous demande de faire. Hein, de ce point de vue-là, est très important. Hein. Surtout en tenant compte de la société civile et des stakeholders qui travaillent sur l'autre rive de la Méditerranée et qu'on n'écoute pas, hein, de ce point de vue-là, sont très importantes. Hein. On voit la recherche qui se fait bénéficie une part, mais pas hein, les autres parts, et de ce point de vue-là, est important. Aussi, le rapport entre démocratie et non-démocratique régime est aussi une catégorie d'analyse qui est importante, surtout à travers la Libye et d'autres États. Mais de ce point de vue-là, le cadre de référence ici, c'est que la conditionnalité est en train de se faire. Ce sont des démocraties européennes qui font des négociations avec des non-démocraties. Et donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de questionnements hein, qui sont en train de se faire parce que tout est opaque et confus, n'est pas transparent, etc. Et du point de vue démocratique, toutes ces négociations se font aussi objet. Donc, le MedThink nous invite hein, aussi à voir. L'Espagne a fait des négociations avec l'Afrique pour arrêter l'immigration en Canaries, est énorme. Il a versé énormément d'argent, hein, de l'argent noir des États. Hein. L'Italie avec la Libye. Moi, je me rappelle que je suis allé en Libye, en Italie une fois, dans une rencontre internationale avec des policymakers et des politiciens italiens. Au début, hein, quand la Libye envoyait des bateaux, hein, c'est le WIPOM, hein, des bateaux sur l'Europe pour créer instabilité sur l'Europe parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Et donc, l'Italie disait, écoute, est-ce que la Libye nous demande beaucoup d'argent pour arrêter ça? Ça, c'était. Ils parlaient. Bah, en Italie, on parle de choses qui nous choquent dans d'autres continents et ils parlent. Bon, mais ils sont habitués à la mafia, tout ça, ils sont habitués à cette logique-là. Hein. Mais c'est ça, c'est la logique qui est derrière tout ça. Hein. Et donc, je pense que le MedThinking, il faut faire de la recherche sur ça. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que ce sont des choses qui sont en train de se passer en ce moment, hein, qui se passent très directement en ce moment. Hein. Donc, la conditionnalité, j'en ai déjà parlé, je passe du 7, mais la démocratisation, la conditionnalité en termes politiques, parce que la conditionnalité, il y a une conditionnalité économique, mais une conditionnalité démocratique dont j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est celle que tu dis, je vais te donner des contrats, mais il va falloir que tu traites mieux les femmes dans ton pays. Hein, et donc, le genre, etc., qui s'introduit, etc. Et donc là, il y a déjà John Larson, c'est une chercheuse qui a essayé de voir les différentes meanings de démocratie qu'il y a derrière. Hein. Non seulement l'Union européenne, et comment l'Union européenne vend cette valeur universelle qu'il est en train de projeter dans l'autre, il est en train de le vendre, tout ça. Donc il y a une analyse qui a été faite, et de voir comment les autres reçoivent cette valeur universelle et l'appliquent, et les différentes façons d'appliquer tout ça. Hein. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense que là, le MedThink nous invite à faire ça, hein, que même à relativiser les valeurs universelles et son application contextuelle, hein, d'une façon ou d'une autre. Et là, plus clair que la Catalogne et l'Espagne sur le sens de la démocratie, je pense que même ici, hein, même le sens de la démocratie est très différent. Hein. Donc, je dis ça juste comme exemple exemple de la différentes façons de comprendre la démocratie, hein, qui ont en ce moment en tension. Hein. Il y a des gens qui sont en prison pour ça, parce qu'ils comprennent différemment la démocratie. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux. Je parle de choses qui sont très sérieuses en ce moment, hein, même chez nous. Hein. Donc comment faire comprendre la démocratie au Maroc? Donc je pense qu'il y a beaucoup, hein, de cadres de référence qui nous échappent. Hein. Et là, il faut faire de la recherche sur ça. Le co-développement comme cause aussi est un autre cadre de référence qu'il faut éviter. Là, les chercheurs sont de plus en plus partagent l'idée que le co-développement n'arrête pas l'immigration. Bravo, heureusement, parce que c'est-à-dire que beaucoup plus de politique de co-développement ne va pas arrêter l'immigration, parce que l'Europe a cette idée-là. Hein, on va développer les autres pays parce que l'immigration est liée au manque de développement. Si on développe les pays, il va y avoir moins d'immigration. Ça, c'est la logique. Ben, cette logique-là n'est pas vraie. Hein, et donc, le med thinking nous oblige à problématiser ce qui est une idée reçue. Hein. C'est ça l'idée, encore une fois, du med thinking, hein, qui est importante. Hein. Donc, à partir de là, il y a deux assumptions, deux présuppositions qui, moi, je fais l'approche med thinking appliquée sur des cadres théoriques. Je suis allé très vite. Hein, et ici, j'ai navigué très vite, hein, ici. Mais là, je m'arrête sur les deux assumptions qui vont me permettre d'ouvrir, et je vais m'arrêter ici, ce que moi, je pense qui est importante comme ligne, hein, de recherche, et que là, je suis en train d'ouvrir comme ligne de recherche. La première, c'est que toutes les recherches qui ont été faites, et là j'ai peut-être passé je vais la prendre tout à l'heure. Ben, j'ai fait, voilà, c'est celle-là. J'ai fait une petite recherche très très vite sur Google Scholar, d'accord. Et j'ai mis Mediterranean Migration, d'accord. Et j'ai fait un vidage de tout ce qui se produit dans les premières pages de. Et là. On a vraiment une image, une cartographie de ce qui est en train de se travailler en ce moment. Hein. J'ai fait une analytique. Hein. Et donc, la première idée qu'on reçoit, c'est que c'est, la recherche est conflict-driven. Elle est très liée au conflit. Hein. Elle ne donne pas de solution. Elle analyse le conflit. Hein. Et elle reproduit le conflit. Elle légitime le conflit. Hein. Je vais plus loin. Et négative. Hein. Ce sont les aspects négatifs. La recherche se fait sur les aspects négatifs de l'immigration. La plupart des recherches, hein, se fait sur les aspects négatifs de l'immigration. Et donc, moi, là, le med thinking nous invite à voir un autre regard. C'est pour ça que moi, je suis en train d'essayer de voir comme ressource, comme positif, hein, et de ce devoir. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on ne peut pas construire une méditerranéenne région sur conflict-based approach. Hein. On ne peut pas le construire. Donc là, je fais un appel à la recherche, et surtout pour que la narrative dominante est négative, etc., de ce point de vue-là. Et là, bon, bah, y a beaucoup de choses qui sont... Bah, de penser l'identité méditerranéenne et de penser même ce que moi j'appelle le medicineship. Hein. Le medicineship, c'est même la citoyenneté méditerranéenne. Hein. La citoyenneté méditerranéenne, l'identité méditerranéenne se construit à partir des rapports, hein, des rapports, hein, etc. Et donc, quelles sont les valeurs? Moi, je parle de cosmopolitanisme méditerranéen en tenant compte quelles sont les valeurs universelles méditerranéennes qui ne sont pas dépendantes des États-nations. Hein. Quelles sont les valeurs? Et donc, l'interaction est importante, la mobilité est importante, et de construire ce med thinking, mais beaucoup plus, je dirais, positif, parce que c'est un peu ça, le med thinking derrière. Et donc, après, il y a un autre présupposé. C'est pas seulement que c'est conflict-driven, c'est pas seulement que c'est axé sur le négatif, mais c'est centré sur les États. Et là, il y a une méthodologie nationaliste, ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Le national méthodologie a été une catégorie d'analyse qui a été introduite par, par les Transnational Studies, hein, qui constate si on prend sérieusement que les gens ont plusieurs identités, plusieurs attachements dans leurs pays différents, le Maroc, la France et l'Espagne. Si on prend sérieusement cet transnationalisme du point de vue identitaire, où les gens ont beaucoup plus d'identité, n'ont pas seulement une identité, ils peuvent gérer 3-4 identités. Si leurs parents sont de différentes nationalités, ils vivent dans une autre nationalité, etc., et ils ont de la famille qui vivent dans 3 pays différents, quelle est ta nationalité, tes attachements? Ils disent, écoute, ça dépend. Hein. Ma sœur vit en Belgique, mon frère en Espagne, et mon père est allemand. on peut pas parler d'identité nationale dans le transnationalisme d'une façon ou d'une autre est une façon de réfléchir sur la complexité d'identité qui est derrière l'immigration et que la méthodologie nationale qui est derrière nous oblige à choisir toujours une identité au lieu d'une autre, etc. Et que toutes les catégories d'analyse, sont toujours ancrées sur les États. C'est l'État qui a le monopole de la définition des choses. Hein. C'est l'État qui définit les choses. Hein. Et bon, de ce point de vue-là, je fais, sur ce spécial issue, l'éditorial, je fais une section où j'essaye de retrouver toutes les catégories d'analyse qui sont faites par les États et qui empêchent d'une façon cette innovation du med-thinking que je suis en train de demander pour penser la Méditerranée autrement, etc. Et donc, c'est là où c'est la première assumption, c'était de retrouver une façon de voir la Méditerranée comme une ressource et la mobilité comme une ressource et non pas comme un conflit. Hein. Je m'arrête qu'au lieu de voir la Méditerranée du point de vue des États, pour moi, en ce moment-là, la crise de la Méditerranée, s'il y a une crise, c'est une crise des États. Ils ne savent pas gérer l'immigration. Hein. Et donc, d'essayer de donner une place aux villes. Hein. D'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup plus facile de mettre en rapport Oran et Barcelone que l'Espagne et l'Algérie. C'est beaucoup plus facile de mettre en rapport des villes que non pas les États. Et donc, c'est à partir de ces... Et la mobilité se fait à travers des villes. C'est un phénomène urbain. C'est un phénomène urbain. Le printemps arabe, c'est un phénomène urbain. Et donc, de ce point de vue... L'idée que les villes commencent à prendre une centralité hein, sur la recherche des migrations, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que moi-même je suis en train de travailler en Europe depuis longtemps. On a fait même un handbook sur Cities on Migration, etc. On a fait beaucoup de local town qu'on parle, où les villes deviennent des acteurs importants pour la gestion de la diversité au lieu des États. Le multiculturalisme, c'était une théorie des États. C'est une théorie d'État. C'est la gestion de la diversité des États. L'interculturalisme, c'est une approche de ville de la diversité. C'est complètement différent. Hein. Là, j'insiste sur ça parce que j'écris beaucoup sur ça. Et donc, là, c'est appliquer tout ça. C'est-à-dire, si on veut vraiment repenser la Méditerranée, il faut la penser du point de vue des villes. Hein, et que la connexion, c'est là où le cyberspace devient important parce que c'est des connexions entre les villes, les rapports. Et là, on ferme le cercle presque de Braudel parce que le Braudel parle de villes, hein, il ne parle pas des États. Il parle bien sûr des constructions, des empires, etc. Mais c'est là où ce sont les rapports entre les villes qui ont construit la Méditerranée comme catégorie hein, d'analyse. Et de ce point de vue-là, le med-thinking nous invite très fortement, nous invite à faire un regard du point de vue des villes méditerranéennes. C'est pour ça que moi, la catégorie que moi j'aime utiliser, c'est « regional cities hein, », parce que là, je mélange les deux. Hein, l'idée que les villes deviennent un facteur important pour repenser la région méditerranéenne. Et donc, je pense que les villes vont nous, vont, en analysant les villes, ils vont nous proportionner beaucoup de cadres théoriques et des catégories d'analyse qui sont tout à fait différentes aux catégories d'analyse que je viens de mettre visibles, qui sont des catégories d'analyse qui sont beaucoup plus ancrées sur, sur les États. Hein, et bien sûr, cette idée de Mare Nostrum, hein, cette mer à nous hein, qui est derrière. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le med thinking nous invite aussi à faire ça. Alors, ce que je finis sous ça, mais mon idée, c'est que je reprenais tout à l'heure l'idée de pourquoi une cartographie de la recherche est importante. C'est comme quand on fait un état des lieux, vous êtes en thèse, beaucoup d'eux, ou pour faire master, etc. Quand on fait un état des lieux, l'important, ce n'est pas l'état des lieux, c'est comment, quelle est l'approche que nous avons, parce que les lieux n'est pas objectif. On ne peut pas faire un état des lieux sans une approche, sans des critères derrière. Hein. Et l'état des lieux n'a qu'un objectif. Le principal objectif de faire un état des lieux, c'est d'essayer de voir quels sont ceux qui manquent et pour revitaliser ce que nous sommes en train de faire de recherche. Et de ce point de vue-là, je pense que le med thinking va nous proportionner et doit nous proportionner beaucoup de choses pour repenser. Et j'ai un regard très critique même sur la recherche qu'ils sont en train de se faire en ce moment. Et c'est une façon, et là je finis avec ça, mais c'est une façon aussi de... moi, j'ai travaillé beaucoup les frontières, j'ai beaucoup de livres, des articles, les frontières en général comme catégorie d'analyse, hein, la frontière comme catégorie d'analyse, la diversité comme catégorie d'analyse, etc. Et donc, ce n'est pas nouveau à moi. Et donc, pour moi, ça aurait été très facile de travailler les réfugiés. Je n'ai aucun travail sur les réfugiés. Et donc, ma demande, c'est pourquoi je n'ai pas d'intérêt. Et je pense que c'est parce que je pense que l'important sur la recherche qui se fait en ce moment, ce boom hein, de recherche sur l'événementiel, je pense que... il y a un stress de recherche qui se fait sur ça. Et là, je fais une demande, arrêtez-vous, réfléchissons ce que vous faites, à qui vous bénéficiez, repensons la Méditerranée autrement. C'est un peu ça que je suis en train de faire. On va voir si ça marche ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, la motivation y est. C'est vraiment le plus important pour la recherche, c'est la motivation. Et pour l'instant, ça y est.
Merci, c'est tout. Merci.